I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je suis né en 1986, et la toute première fois de ma vie où j'ai pu voter, c'était en 2005, pour le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. En bon étudiant en sciences humaines que j'étais alors, j'étais surexcité à l'idée d'entrer dans le game de la politique. Ça tombait bien, les débats sur ce traité étaient homériques. On en causait partout à l'époque, on s'engueulait. Je me rappelle qu'avec ma mère, on avait lu en intégralité le texte du traité qui avait été envoyé à tous les électeurs pour pouvoir argumenter face à mon père qui voulait voter oui, alors que nous, on voulait voter non. Bref, c'était enthousiasmant. Et puis on a voté, le non l'a emporté, et deux ans plus tard, comme par magie, ce non populaire s'est transformé en oui étatique. Un nouveau traité, diablement similaire à celui que nous avions refusé, a été ratifié, et finalement nos dirigeants ont fait comme si de rien n'était. Aujourd'hui, alors que nous pédalons collectivement dans une semoule politique de plus en plus épaisse, le spectre de 2005 est un peu partout, dans la défiance farouche du peuple envers les médias et les élus, dans des figures polémiques comme celle d'Étienne Chouard qui a émergé lors du référendum avant d'être cannibalisé par l'extrême droite et qu'on nous resserre souvent comme une voix de la contre-culture. Dans l'envie aussi, claire et nette, de plus de démocratie directe, sans doute le seul véritable point de convergence de l'ensemble des opposants à Macron. Alors est-ce qu'on en serait là si 2005 n'avait pas eu lieu? Qu'est-ce qui s'est brisé à cette époque? Pourquoi ne parvient-on pas à surmonter ce déni de démocratie? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, je suis allé à la rencontre de ma consœur Elisabeth Drévillon. Elle est documentariste, elle a signé en 2017 le film 2005, quand les Français ont dit non à l'Europe, qui retrace tout le déroulé du référendum. Je lui ai demandé de remonter avec moi le fil de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005?
Alors, tout d'un coup, 2005, c'est les Français décident de s'emparer de la politique, en fait. Pendant des années, on disait qu'ils étaient incapables de comprendre, et là, tout d'un coup, ils décident de... Non, vous n'allez pas nous la faire à l'envers, on veut comprendre. Et c'est ce qui est extraordinaire pendant cette campagne sur le traité constitutionnel, c'est que les salles se sont remplies, les gens sont venus, ils ont écouté, ils ont posé des questions, ils se sont emparés du texte, et ils ont dit non. Au bout du compte, ils ont dit non. Voilà ce qui s'est passé en 2005. Pendant ce temps-là, vous aviez en face les wittistes, les ouïistes, et vous aviez ces gens qui, tous les 30 secondes, vous expliquaient, vous rabâchaient que l'on ne comprenait rien, qu'il fallait voter oui, parce que sans argument d'ailleurs, parce que c'était comme ça. Voilà. Et moi, c'est ça que je trouve très beau, c'est que en fait, c'est un exemple de la vraie démocratie, ce qui s'est passé en 2005 au niveau des Français. Un échange.
Et comment est-ce qu'on passe du coup d'un véritable exercice démocratique, de cette vraie discussion, de ces vrais débats autour des thématiques profondes que portait ce traité européen, ce traité constitutionnel européen, comment est-ce qu'on passe donc de cet exercice démocratique à un déni de démocratie, puisque c'est finalement la conséquence du non des Français?
Ben, à partir du moment où Nicolas Sarkozy, élu président de la République, a décidé que son vote était la seule valeur qui comptait, vous avez voté pour moi, donc ce que je fais, vous l'avez accepté, par anticipation. Donc voilà, la démocratie, il est là. Mais je crois que c'est cette déconnexion totale entre les politiques, les médias, et les Français, tout simplement, qui vivent le quotidien, un quotidien que tous ces gens-là ne connaissent pas. C'est ça, la déconnexion. Donc, on crée ce fameux la France d'en haut, la France d'en bas. Et la fracture vient de là, et personne n'a fait son autocritique.
Quand on... Enfin, 2005 a été un petit peu oublié quelque part, a été un petit peu effacé du tableau. On a tendance à ne pas forcément y voir, on va dire, le début de la fin, quelque part, le début de la catastrophe et un peu du marasme démocratique dans lequel on baigne aujourd'hui. Peut-être pour remettre les choses dans le contexte, pour ceux qui s'en souviennent pas très bien, sur quelle base les Français ont dit non au texte? Parce que maintenant, on dit, oui, ils ont dit non parce qu'ils ont eu peur de l'Europe, ils ont dit non par protectionnisme, ils ont dit non par volonté de souverainiste. Alors, il y avait des raisons plus profondes que ça par rapport au texte.
Oui, mais les Français se sont aperçus que ce texte n'était qu'un texte d'économie libérale et ils ont eu envie. Les Français n'ont pas rejeté l'Europe en disant non. Les Français ont dit nous voulons une Europe sociale, une Europe du travail commune, une Europe fiscale commune, une Europe de politique étrangère commune. Tout ça n'existait pas. C'est à ça que les Français ont dit non. Ils ont dit nous ne voulons pas être gouvernés uniquement avec des chiffres. Voilà. On veut que les peuples soient égaux dans une Europe, tous à égalité. Voilà ce que les Français ont dit.
Et quelle est la lecture qu'en ont fait les politiques à l'époque?
La lecture des politiques, c'était de dire on ne peut pas continuer. Si vous ne votez pas le traité constitutionnel, l'Europe s'arrête. Donc vous serez responsable d'eux. Vous allez casser l'Europe. Mais c'est en permanence comme ça, c'est pour tous les traités. Hein. Vous allez casser l'Europe, donc ce n'est pas une économie libérale que l'on met en place. Dedans, il y a les valeurs des droits humains, etc. etc. Enfin, bon, d'accord, mais en fait, il n'y a pas eu d'argument. C'était, il faut voter oui. Moi, les arguments, je ne les ai pas vraiment entendus. J'ai beaucoup entendu d'hommes et de femmes politiques pour le oui s'exprimer sur les ondes, sur les plateaux de télévision, dans les tribunes des journaux. Quand même, les chiffres sont énormes. Hein. Sur 3 mois, entre janvier et mars 2005, il y a eu 71% de représentants du oui à venir s'exprimer sur « il faut voter ce traité ». Et 29% pour le non. Donc, l'affaire était bâchée depuis le début. Voilà, c'est comme ça, on va gagner, le oui doit gagner. De toute façon, le oui doit l'emporter. On vous a fait cadeau d'un référendum, alors que dans les autres pays, il n'y a pas eu de référendum. On vous a fait cadeau d'un référendum, donc maintenant, taisez-vous et votez.
Une des constituantes, un des éléments, on va dire, qui fait que ce vote de 2005 et ses conséquences sont très lourdes pour notre démocratie, c'est que, quelque part, gauche et droite ont tiré un peu dans le même sens et ont donné l'illusion de proposer la même politique.
Oui, bah ça, vous parlez de François Hollande et Nicolas Sarkozy. La fameuse une de Paris Match, où les deux sont interviewés et tels deux chefs d'orchestre expliquent aux Français que s'ils votent non, ça sera une catastrophe européenne. Oui, effectivement, là, du coup, le message, il est totalement biaisé. Il est « je suis de gauche, qu'est-ce que je fais ? Je suis de droite, qu'est-ce que je fais ?» Bon, on avait plutôt tendance, on aurait pu se dire « seule la droite veut ». Ce traité de constitution. Et non, la gauche était aussi... Mais bon, en même temps, si on regarde les politiques mises en place par la gauche, ce sont aussi des politiques libérales. Oui. On peut quand même, si on décortique, on peut se dire que la gauche a fait beaucoup plus dans le libéralisme parfois que la droite elle-même. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Le problème de la gauche, c'est qu'elle, déjà en 2005, le peuple, les Français, le citoyen, ils ne savent plus ce que c'est. C'est pour ça qu'ils appellent à voter oui. Alors, parmi eux, certains sortent du lot. Alors, on dira par opportunisme pour Laurent Fabius, bien évidemment, parce qu'il veut se présenter, il y a les présidentielles qui se profilent. Mais bon, il y a des gens comme Marie-Noëlle Lienemann, Jean-Luc Mélenchon, Henri Emmanuelli. Tous ces gens-là ont fait une campagne pour le non avec des arguments. C'était ça qui était extraordinaire. C'est que tout était décortiqué chez les nonistes. On ne disait pas « votez non, votez non, votez non ». On expliquait pourquoi il fallait le faire. Contrairement aux WIS qui, eux, disaient « il faut le faire ». Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été une espèce de d'alliance contre nature hein, entre le PS et l'UMP.
Il y a aussi un autre élément très important de cette période, c'est un semblant de défiance qui s'installe aussi, qui se renforce entre le peuple et les médias, parce que le rôle des médias, et là pour le coup le rôle des éditorialistes essentiellement, et pas des journalistes de terrain évidemment, parce qu'il y a toujours cette grande séparation qui existe, les éditorialistes étaient très majoritairement pour le oui, et ça s'est beaucoup vu et ça leur a été beaucoup reproché, donc ça a touché toute la classe, on va dire, journalistique par la suite.
Mais je crois que ça a été le point de fracture. C'est à partir de 2005, les Français se sont commencé à se dire « Mais cette presse, qu'est-ce que c'est que cette presse ?» Les journalistes sont... Il y a connivence entre l'élite, je mets des guillemets, hein, médiatique et l'élite politique. Et à partir de là, ils n'ont plus cru en ce qu'ils pouvaient lire et entendre. C'est ça qui est dramatique. Parce que le poids des éditorialistes est beaucoup plus important que le journaliste de terrain. Et c'est vrai que l'attitude des éditorialistes, moi je me souviens du lendemain de l'élection où Serge Joly traite les Français de xénophobes, populistes. Il n'est pas le seul, hein, Joly, hein, Jean-Marie Colombani, enfin, tous les éditorialistes qui avaient fait campagne pour le oui, parce que de toute façon, il fallait cette Europe, et cette Europe telle que le traité en parlait, ont été effrayés. J'ai peur du populisme, me disait Serge Joly. Le populisme m'effraie. Mais il était où le populisme dans le vote non ? Voter non à la Constitution, voter non à une économie ultralibérale n'est pas du populisme. Et c'est là, et depuis, je pense que rien n'a été colmaté. La fracture n'a fait que s'agrandir entre les médias, que l'on considère comme des représentants de la langue politique, et les Français qui ne les entendent plus.
Quelles conséquences en ont tiré les politiques ? Est-ce que vous qui avez échangé avec eux, avec les gens qui étaient les acteurs de cette époque de 2005, comment est-ce qu'ils voient cette période et est-ce qu'ils en ont tiré des leçons, si jamais c'est le cas ?
Ben, écoutez, si on analyse ce qui s'est passé par la suite 2005, 2007, 2012, je ne vois pas très bien quelles leçons ils ont tirées. 2007, traité de Lisbonne, déni de démocratie, on bafoue le vote du peuple. 2012, je renégocierai le pacte européen, pacte budgétaire européen, je ne renégocie rien du tout. Donc, ensuite, 49-3 pour la loi travail sur demande de Bruxelles. Enfin, à partir de là, effectivement, je ne vois pas quelles leçons ils ont tirées de ce vote. Et encore une fois, c'est la fracture entre le citoyen, tous ces gens qui permettent à ceux-là d'être élus, et cette fracture qui ne fait que s'agrandir. C'est la fameuse fracture dont parlait déjà Chirac, hein, quand il a dissous l'Assemblée nationale en 1997. Quelles leçons ont-ils tirées ? Ben rien, nada. Nous avons les Gilets jaunes aujourd'hui. Donc, s'ils avaient tiré une leçon, peut-être que les Français ne seraient pas dans la rue tous les samedis.
Cette fracture, qu'en pensent les politiques, notamment ceux qui, à l'époque, étaient impliqués dans cette campagne ? Alors, on a tenté d'en joindre plusieurs, François Hollande, par exemple. Mais du côté des partisans du « oui », on a visiblement moyennement envie de causer de tout ça. Chez les tenants du « non », par contre, c'est un peu plus simple. Marie-Noëlle Lienemann, par exemple, a accepté de nous répondre. Elle est sénatrice, elle a longtemps été un membre influent du PS, qu'elle a quitté à la fin de l'année dernière pour monter son propre parti. Je lui ai demandé quels souvenirs elle gardait de 2005.
Moi, j'ai vécu cette campagne comme la consécration d'un divorce considérable entre le Parti socialiste et sa base. Et en même temps, j'ai vécu ça comme un moment passionnant parce que les Français s'étaient vraiment approprié le débat. Il y avait des réunions partout. Dans les familles, on discutait. Parfois, on se disputait. Moi, j'ai eu des gens qui m'envoyaient des SMS pour me demander des argumentaires parce que comme j'étais député européen, je connaissais parfaitement le traité. Donc, il y avait des interprétations, etc. Donc, j'ai vécu ça comme un immense temps démocratique passionnant pour le pays. Et en même temps, par une totale déconnexion de la direction socialiste, en tout cas d'une large partie d'entre elles, avec l'aspiration de celles et ceux qui faisaient notre base sociale.
Ce qui est assez frappant quand on remonte un peu l'histoire de ce référendum, c'est de voir comment justement cet exercice démocratique était... on va dire très vivant, qui était très pris en main par la base électorale, s'est retrouvé un peu bafoué 2 ans plus tard lorsque
nos institutions sont redoutables et les socialistes ont une très lourde responsabilité. D'abord, bien sûr, la responsabilité de Sarkozy qui, comme d'habitude, nous dit « puisque vous avez voté pour moi, vous avez voté pour tout ce que j'ai dit, donc on va faire un nouveau traité ». Il n'a jamais dit que ce nouveau traité serait exactement le même que l'ancien, etc. Donc ça, on a l'effet terrifiant de la monarchisation de la Ve République. Et puis, par ailleurs, il fallait modifier la Constitution française.
Oui.
Et si tous les socialistes avaient voté contre cette modification de la Constitution française, au moins au motif que ce que le peuple avait rejeté, c'était le peuple qui devait à nouveau délibérer, nous n'en serions pas là. En s'abstenant pour une part d'entre eux, vous savez que quand on vote en s'abstenant, on ne vote pas contre, de fait, on ne bloque pas le processus et on le rend possible, une large partie des socialistes, ce n'est pas le cas de tous, il y avait beaucoup de gens qui ont voté contre, ils ont été complices de ce coup d'État démocratique. Au motif que le peuple, l'Europe, toujours cette idée qu'il faut faire l'Europe un peu en dépit du peuple qui ne se rend pas bien compte des enjeux. C'est un vrai scandale et c'est d'ailleurs une des raisons d'une crise européenne qui va être maintenant très difficile à dénouer.
Oui, justement, je me demandais si de votre point de vue, on avait semé une bonne partie des graines des problématiques démocratiques actuelles, notamment de la défiance peuple vis-à-vis des élus.
Absolument.
Dans cet épisode-là, où la gauche et la droite finalement ont pu donner l'impression de parler d'une seule voix.
Oui, il y a eu bien sûr ce temps-là, mais il y avait déjà eu avant le traité d'Amsterdam. Quand Lionel Jospin arrive au pouvoir, dans notre programme, il y a de refuser un traité qui s'en met de conditions à l'euro, d'accord ? Conditions sociales, conditions fiscales, conditions de gouvernement économique et pas de dogme intangible. La première des choses, quand Jospin arrive, un mois après, il signe le traité et il ne fait sa ratification par discipline. Il dit aux gens, on ne peut pas aller contre Chirac maintenant, ce serait tactiquement malhabile, tant pis si c'est un problème majeur pour la France à long terme. Et il fait avaliser une assemblée une orientation qui n'était pas, à peine 2 mois, qui n'était pas le mandat sur lequel on était élu. Ces affaires européennes sont parmi celles qui sont les plus significatives de la crise démocratique. D'autant plus qu'on transfère des compétences et des souverainetés. L'Europe a servi de paravent à tous les renoncements, en particulier l'acceptation du libéralisme et l'abandon d'une certaine souveraineté politique.
Est-ce que ça explique, selon vous, le déroulé de cette histoire de 2005, entre 2005 et 2007, explique, selon vous, qu'on ait plus eu recours au niveau national au référendum depuis cette époque-là, depuis presque 15 ans ?
Oui, enfin, il n'y a jamais eu beaucoup de référendums en France. Alors après, la théorie, c'est que ce n'est pas que les Français n'étaient pas d'accord. C'est qu'ils sont cons. Ils ne votent pas sur la question qu'on leur demande.
Oui.
Donc, ça commence à bien faire. Et là, s'il y a un sujet où ils ont voté sur le sujet, c'est bien ça. Parce qu'il suffisait d'écouter les réunions, les repas à table, les discussions dans le train et tout le Bataclan ou les métros pour se rendre compte que les gens, ils avaient une idée précise de ce qu'ils voulaient et de ce qu'ils ne voulaient pas. Mais il faut voir quand vous voyez comme ça la révolte contre le système. Mais moi, j'étais effondrée quand on nous prenait pour des analphabètes, soi-disant qu'on n'avait pas compris ce qu'il y avait dans le traité.
Oui.
Non, mais franchement, après, non seulement on n'avait pas compris, mais après, on était des racistes. On ne voulait pas que les Polonais viennent travailler en France. Alors que nous, on est d'accord pour qu'ils travaillent en France, mais avec les mêmes salaires, les mêmes cotisations sociales et les mêmes droits pour qu'il n'y ait pas de dumping. Et qu'on n'est pas pour la libre concurrence, sans règles, sans machin. Et on était quasiment des racistes.
Est-ce que justement aussi, pour revenir sur le dossier de la gauche précisément, le PS a un peu signé son arrêt de mort à cette époque-là, entre 2005 et 2007
Moi, je me rappelle que Bérégovoy, dès Maastricht, donc je vous rappelle que l'ensemble de l'électorat de gauche avait voté non très majoritairement, hein, et que si Louis est passé, c'est pas parce que c'était majoritaire à gauche, loin de là. Béré m'avait dit, ils ne nous le pardonneront pas.
Ils, c'était qui ?
Le peuple de gauche.
Est-ce que la mauvaise gestion de 2005 n'expliquerait pas en partie le bordel qu'est le Brexit, avec des dirigeants tenus d'appliquer une décision populaire à laquelle ils ne croient pas beaucoup ? Et est-ce qu'on ne trouverait pas aussi quelques échos du référendum dans la mise à l'écart récurrente des jeunes du débat public ? On creusera toutes ces questions dans de prochains épisodes. Merci à Elisabeth Drévillon et Marie-Noëlle Lindemann pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver, que je remercie aussi. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et qu'on sort pour nous interpeller, programme B à binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.